Aux portes de l'Afrique. Kosurukudugu la ni Bakassi ke Oubidou. Ça veut dire en français une ville de hyène, si tu fais les cris de chèvre, on te mange. Eh oui, ça parle d'intégration partout dans le monde entier. Si tu vas dans un endroit que tu trouves que c'est pas la même culture que la tienne, tu es obligé de te plier de ça. Sinon, on va te bouffer.
Un proverbe sur l'intégration, donc redis-le en bambara.
Surukudugu la niye bakasike ubidou.
Et en français?
Et ville de hyène, si tu fais le cri de chèvre, on te mange.
2 minutes Jeannin, Paul Sidibé, bonjour.
Bonjour Rémi.
Aux portes de l'Afrique avec au programme aujourd'hui Dominique.
Alors aujourd'hui on va voyager sur l'île de Gorée. Avec ce qu'elle a de beau et sa terrible histoire, je pense que c'est un lieu dont il faut parler. T'as dû y aller, hein.
Quand, oui, point de départ des esclaves.
Voilà. Après, on parlera des remèdes traditionnels et guérisseurs du Sahara au fleuve Sénégal. Donc ça se passe en Mauritanie. Juste une courte information sur ce livre. Et puis, une info locale et un appel à notre ami Bouba.
Bouba Kansai. Alors rappelle-nous, qu'est-ce qu'il fait Bouba?
Alors Bouba, il s'appelle Bouba Kansai, c'est le fils du vieux Kansai et il tient l'auberge du vieux Kansai à Bandiagara, qui est la ville d'Amadou en Patéba.
Voilà, quelque part
juste
dans
avant
le
d'arriver,
sud du Mali,
hein, non.
Non, dans le nord.
Il est temps que tu viennes avec nous, hein. Juste dans le centre.
Dans le centre, pile poil au milieu.
Ville de passage obligatoire pour aller sur les falaises d'Ogan.
Il y a pas la mer, hein, ça je vous le dis.
Ah non.
Alors là, il y a pas la mer.
Côté musique, qu'est-ce qu'il y a?
Ben, côté musique, j'ai amené Tarika. Tarika, c'est...
Tariké?
Non,
Tarika. Tarika, pas Tariké. Eh ben, c'est malgache. C'est un groupe malgache qui sont... Voilà, j'ai beaucoup aimé leur musique, même si je ne comprends pas. Le titre, c'est Retani.
Je t'aime pas si...
Voilà, et voilà, et voilà, c'était Tarika, et c'était un groupe malgache.
Amoré Tané.
Voilà. Rémi, tu comprends la langue malgache?
Non, pas du tout. Wow.
Aux portes de l'Afrique.
Alors, on se déplace au Sénégal, à Dakar, à un vol de mouette hein,
à 4 km.
De Dakar, du port de Dakar. Voilà. On voit très bien l'île de Gorée.
Voilà. Et tu t'y revois là. Alors, tu prends le bateau là. Voilà, tu te laisses porter.
Il faut y aller pendant la Tabaski.
Ah, bah, alors, remarque.
Tu sais pourquoi il faut y aller pendant la Tabaski? Donc, la Tabaski, c'est comme l'Aïd el Kébir.
Oui, c'est 40 jours après la fin du Ramadan. Oui, c'est ça, c'est Paul.
Donc, la plupart des Dakarois, repartent au village, en fait, pour fêter ça. Et donc, ils tuent une chèvre. Et on mange ça.
Un mouton,
en famille. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Dakar est complètement vide.
Ça va faire du bien, Pascal.
Est complètement vide et ça fait vachement de bien.
Mais c'est vrai qu'il faut y aller.
Il faut y aller à la Tabaski.
Ouais, mais super, dans pas longtemps. Il faut se préparer là, prendre les billets.
Et alors, moi, tu vois, vous voyez, je savais que Rémi allait être dans ses souvenirs du Sénégal. Vous pouvez pas le voir, mais là, il a les joues roses, il a les yeux brillants. Voilà. Bon, alors, il se revoit partir donc au large de Dakar et on va parler en temps, puisque si on prend le bateau, on peut parler de chaloupe après tout. 20 minutes. Ouais. 20 minutes, ce n'est qu'à 4 km, mais c'est un très, très beau voyage. Et l'île de Gorée est un des endroits les plus attachants, il me semble, du Sénégal. Il y a peut-être l'île de Carabane, mais on en parlera une autre fois. Mais c'est vraiment un très, très bel endroit. Et elle se caractérise, je sais pas si tu te rappelles, par une architecture complètement homogène, avec des couleurs ocre, comme on peut retrouver l'ocre du Roussillon. Hein, moi, avec des bougainvilliers, avec des palmiers, des baobabs, ça pousse un peu partout.
Il y a une espèce de palace qui est planté au milieu là, voilà. Qui est complètement désaffecté depuis des années, qui tombe pas en ruine mais qui est vide. Voilà.
Et alors, si ce n'était tous ces petits gamins noirs qui sautent partout, qui courent partout dans les rues, vraiment, enfin je sais pas si ça t'a fait cet effet, on se croirait dans un village de Provence. Il manque plus que la fontaine là au milieu de la grande place, mais bon, c'est très beau Gorée. Et alors il y a des paysages bien sûr, des températures qui varient, 25 et 17 l'hiver, pas mal, hein. 24 à 30 l'été, et c'est lié à toute cette végétation, j'oubliais les hibiscus et puis tout ce qui tourne autour. Alors ça, c'est vraiment le côté d'aujourd'hui. Hein, cette île qui a été restaurée grâce à des chantiers jeunes, beaucoup de chantiers jeunes qui viennent de tous les pays, hein, qui ont aidé à remettre toutes ces belles maisons. Mais il y a quand même une grave histoire, une histoire très lourde, et je pense qu'il faut rendre hommage à cette île, à tout ce qui s'est passé. L'histoire de Gorée qui a été découverte en 1444 par des marins portugais d'ailleurs, et l'île fut baptisée Palma, mais elle est également nommée Bessé-Guiche. Je sais pas si tu l'as entendu parler ça, non. Mais dans des vieux documents qu'on a retrouvés de l'époque, où les populations locales dont tu parlais tout à l'heure l'appelaient Bir ou Ber. Et la marine hollandaise, parce que c'était quand même un point stratégique hein, pour les côtes, s'en est saisie en 1588 et l'a rebaptisée Gwédérid, c'est-à-dire Bonne Rade, d'où son nom Gwédé de Gorée. Et bien sûr que les Français l'a pointé leur nez, comme ils le font un petit peu partout, voilà. Et en 1677, le vice-amiral d'Estrée s'en empara pour le compte du roi de France. Mais on l'a pas gardée très longtemps, cette île. Après, elle a été très occupée par les Anglais, puis redonnée à la France en 1817. Voilà. Sa prospérité fut liée au commerce, dont celui des esclaves. D'ailleurs, à Gorée, il y a une maison, une grande, grande maison, qui s'appelle la Maison des Esclaves. Et là, il y a une porte, et cette porte, elle donne directement sur la mer. C'est hyper émotionnel. Et beaucoup de Noirs qui étaient pris là, qui allaient être esclaves, essayaient de fuir par cette porte qui les amenait pas... Enfin, de toute façon, ils se jetaient hein, dans l'océan. Mais il y a beaucoup de requins à l'époque.
Hein, oui, puis y a des, on voit encore les anneaux de fer où étaient accrochés les chaînes des esclaves.
Donc, cette prospérité, hélas, elle fut liée au commerce des esclaves, qui fut un des fondements de l'organisation économique des colonies d'Amérique. Hein. La traite des esclaves vers les Amériques s'étendit sur 3 siècles sur les côtes africaines. Donc il y a eu des traites en Gambie, notamment, ben, c'est juste en dessous, au Bénin, au Ghana. Il y avait des gens qui, des esclaves, des Noirs qui partaient du Mali, puisque le Sénégal a failli être le Mali hein, aussi. Donc ils partaient de tous ces pays-là. Et les centres concentrationnaires des esclaves africains en partance pour l'Amérique, depuis l'actuel Sénégal, furent Saint-Louis. Tu en parlais tout à l'heure de Saint-Louis, tu as été, donc ouais, tu as dû voir, voilà, ses départs. Rufisque, Sali Portudal, Ziguinchor, Carabane, cette île merveilleuse, je vous en parlerai un jour. Et puis sur l'île, l'ancienne demeure dont on parlait tout à l'heure, qui appartenait à Anna Kola Pépin, qui est connue sous le nom de la Maison des Esclaves, est un lieu symbolique. C'est un lieu restauré.
Il y a beaucoup de Noirs américains qui viennent en pèlerinage à cet endroit-là. C'est vraiment connu, l'île de Gorée aux États-Unis, comme étant le point de départ des esclaves noirs d'Amérique. Voilà. Et donc, quand on va là-bas, effectivement, il y a des bus entiers quoi de Noirs américains qui viennent ici se recueillir en fait sur.
Et moi, j'y étais arrivée après le passage de Mandela. Mandela y est allé, bien sûr, ça a été très émotionnel. Voilà. Donc, retenons ça. Si vous avez l'occasion, allez-y. Bel hommage. En tout cas, c'est un lieu qui a encore cette empreinte terrible de cette déportation dans un cadre magnifique.
Voilà. Et puis, évitez de prendre en photo, comme j'ai le voir faire, les petits, justement, les petits enfants qui jouent sur la plage, là. Évitez de vous croire aux zoos quoi quand vous allez sur les
Merci Rémi.
Ou ailleurs. Non mais c'est
vrai, c'est très agaçant.
Et c'est vrai que l'avantage d'y aller pendant la Tabaski, c'est qu'il y a pas beaucoup de Dakora, mais il y a pas non plus beaucoup de touristes, c'est pas mal aussi.
Oui.
Ne kiri fa kuna ko ma ne la ko ne jang no ko ne jang fo eh ko ga u da halu ko ne ko ne no no ngu na burna ka wore ko eh no ga burna wore ko.
Où est-ce qu'on est, Paul?
Eh ben, en fait, du coup, c'est un taximan que j'ai pris un taxi à Bamako. C'était un vieux, vraiment, qui avait 60 ans à peu près. Et qui me racontait de son premier patron, parce qu'il est taximan, le patron de son premier véhicule. Et bien, il lui a dit, je te confie le taxi, mais tous les soirs, tu ramènes chez moi, il dort chez moi, pas ailleurs. Et bien, lui, il a dit, d'accord. Bah, comme lui, il a eu un client un jour qui lui a amené très loin, en dehors du Bamako, mais très loin. Ben, il a pas pu venir,
il a pas pu ramener
la voiture, ni, ben, il a fait 2 jours là-bas. Bon, le patron en colère, mais vraiment, il vient, allez, direct en prison. C'était ça. C'était vraiment ça, quoi. Il me racontait ça, il dit, mais c'était vraiment chaud pour lui, quoi. Lui, il était, parce qu'il avait pas les soins, le client qui lui a pris, ils ont payé, le voyage d'à peu près 3 jours. Pour le ramener loin et puis ramener, enfin, du coup, lui, il a pas eu même le temps de dire que je peux pas, machin et tout, il est parti. Quand il a ramené la voiture au 3e jour le matin, eh ben, le patron, il dit, allez, tu vas voir que je t'ai enfermé. Et puis, il s'est dit le nom de famille. Ça trouve que le taximan, il était forgeron, et ben, le patron, il était peul. C'est d'où l'avantage des cousinages plaisanteries qui se jouent. Ben, du coup, le patron, il a dit, bon, d'accord, si t'es un pauvre forgeron, c'est pour ça que t'as fait ça. Je croyais que les pauvres forgerons, ils sont forts, ils sont vraiment voleurs, quoi. Tu voulais voler ces bagnoles-là. Ben, du coup, le patron, il a dit, bon, chaque vendredi, tu roules tout ce que tu trouves, tu gardes. Ben, c'était trop marrant, quoi.
J'aime bien les
Il était tellement content. Quand je suis arrivé, c'était chaud, quoi. aux portes de l'Afrique.
Et oui, normalement, il faudrait qu'on passe un coup de fil
à Bouba.
Alors, Bouba Kansai, donc en direction. Alors, resitue-nous ça. On est au Mali, au centre du Mali.
Voilà. On va arriver sur le pays Dogon. On part de Bamako, on arrive à Mopti. À Mopti, on tourne à droite, on fait 80 km, on arrive à Bandiagara. Ouais. Bandiagara, la ville d'Amadou Ampateba. Arrivé à Bandiagara, on passe.
C'est une ville, Bandiagara?
Oui.
On parle souvent des falaises de Bandiagara, mais on a toujours cette image d'Épinal de ces maisons troglodytes sur la falaise là.
Oui, alors ça c'est pas du tout ça, c'est encore sur le plateau.
D'accord.
Voilà. Il y a un très beau palais que les touristes ne vont pas assez voir. Et je pense que nous avons Bouba en ligne.
Donc continue, Bandiagara, quand même.
Il y a du monde, parce que c'est le passage obligatoire quand même pour aller à Sanga, pour aller à Djigibungu, pour aller à Ndé, à Teli. Voilà. Malgré que le pont n'est pas toujours reconstruit, les gens arrivent à passer par Sanga et vont quand même sur les falaises.
Le pont qui franchit quoi?
C'est un petit pont qui franchit la rivière du Yamé.
D'accord.
Ça s'appelle le Yamé, qui a fait des siennes il y a 3 ans. Il y a une vague immense qui a tout emporté. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Hein. Voilà. Mais tout est doux. On va laisser parler Bouba, peut-être.
Oui, il est là.
Allô, Bouba?
Allô, Bouba Kansai. Allô.
Drono.
Allô.
Ouf.
Allô, Drono.
Allô, Paul.
Koukanya.
Ça va?
Ouais, ça va, mais on va parler en français parce que sinon, bon.
Sinon, on comprendra rien. Voilà, bonjour, Bouba. Merci d'être sur CFM Radio ce soir.
D'accord.
Bon, alors, Bouba, comment vas-tu? Je crois que ça va bien, oui. Ce qui serait intéressant de parler, c'est que, tu sais, en ce moment, au Mali, c'est l'hivernage. Alors, comment se passe l'hivernage sur cette région-là du Mali? Ça se passe. Est-ce qu'il pleut beaucoup? Parce que explique l'hivernage, Bouba, par rapport à ce mot d'hivernage. Qu'est-ce que ça représente par rapport à nous en France?
Par rapport à l'hivernage de la France, chez nous, c'est la saison pluvieuse. Quand il pleut beaucoup, on ferme, et puis après les gens vont cultiver. En octobre, c'est la récolte. Et après la récolte, s'il y a eu un bon hivernage,
voilà.
Bouba. Allô, Bouba. La liaison est super pourrie. On va te rappeler avec un autre téléphone. On raccroche là et on te rappelle de suite avec un autre téléphone. Hein. D'accord? Juste un mot sur l'hivernage pendant ce temps.
Oui. Peut-être. Alors l'hivernage, en fait, c'est la saison des pluies. La saison des pluies qui démarre en juin, qui se termine bon an mal an octobre.
Souvent si ça va un peu loin, ça finit.
Mais surtout les grosses pluies.
Mais il y a eu une année même que ça finit en décembre. Par contre, ça a pourri la récolte quand
même. Donc l'hivernage, Paul, c'est la saison des pluies.
Oui.
Voilà, ces pluies qui permettent au mil, qui est quand même la culture principale, ne serait-ce que sur le plateau d'Ogon, puisque ils se nourrissent avec le taux. Ouais. C'est une céréale. Et puis ces pluies qui permettent aussi au riz de pousser, parce que c'est une culture première quand même là-bas. Il y a les oignons, il y a tout ça. On trouve quand même un changement climatique depuis quelques années sur cette région du Mali, où la saison des pluies, elle se recule de plus en plus.
Ouais.
Hein, avant, elle démarrait vraiment, franchement, fin mai, début juin. Là, elle arrive à démarrer des fois vers le fin juin. Hein. Ça retarde pas mal, les épis pourrissent sur place. Mais là, cette année, apparemment, sur plein de régions du Mali, à part la région de Gao, on les a eu il n'y a pas longtemps, c'est une catastrophe. Alors déjà, catastrophe touristique, voilà.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas la pluie.
Il n'y a pas la pluie.
C'est la sécheresse.
Très sec, il ne pleut pas là-haut. Donc ça, c'est terrible. Voilà. Mais sur les falaises, est-ce qu'on arrive à avoir Bouba? Alors,
allô,
c'est vrai que
Bouba.
Si vous... Pour dire aux gens qui nous écoutent quelques renseignements complémentaires, les gens n'osent pas partir au Mali pendant l'hivernage, alors que c'est certainement les plus beaux paysages, la plus belle saison. Sur le plateau d'Ogon, il y a des cascades partout. On peut se baigner, hein, c'est magnifique. Et alors les baobabs ont leurs feuilles, les nénuphars sont en fleuve sur le fleuve Niger. Il y a des oiseaux de partout. Oser aller
c'est vrai qu'on imagine le Mali toujours toujours couleur sable et ocre.
Et la pluie ne dure pas longtemps. Hein.
Alors Bouba.
À Bouba.
Bouba, c'est plutôt la sécheresse là ou quoi? Allô. Ouais, je crois que.
J'ai pas compris, Alain.
Est-ce que Dominique nous disait que c'était l'hivernage arrivait de plus en plus tard, que la pluie arrivait de plus en plus tard, et que dans beaucoup de régions du Mali, c'était la sécheresse.
Oui, parce que on n'était pas à l'époque, lorsque nous on était jeunes, l'hivernage, le début de l'hivernage, c'était au mois de juin. Et maintenant, ça va jusqu'en juillet, les gens étaient. Alors, c'est le changement du climatique qui fait ça. Donc, le début de l'hivernage, ça faisait toujours peur parce qu'il y a un décalage d'hivernage. Et pour le moment, c'est un bon début. Il pleut beaucoup, tout est vert, il y a beaucoup d'eau, les gens sont contents, il y a des fuites d'eau, il y a des cascades, les gens se baignent. Et partout, c'est vert.
On a envie de partir, Bouba. On a envie de partir. Quand tu nous racontes c'est les cascades et tout ça.
Ah oui, c'est le bon moment pour moi de visiter le pays de Gon. Ça change beaucoup pendant le mois de décembre, janvier, février. Parce qu'en ce moment, c'est après les récoltes. La récolte a été faite, le maraîchage. C'est le début du maraîchage. Et c'est pas la même vie.
C'est pas la même vie, c'est ça que tu dis, hein, Bouba. C'est pas la même vie.
Du tout.
Voilà, c'est pas la même vie. Pour maintenant, au mois de juillet, août, septembre, c'est tout à fait vert. Et il y a beaucoup d'eau. Et là, tout le monde est content. Qu'à la vie, les gens rigolent. Les gens vont au champ, après le champ. C'est un beau retour. Des paysans qui reviennent du champ.
Mais c'est beau à voir. Alors c'est beau, mais on imagine, nous, c'est vrai quand on imagine l'Afrique sous la pluie, on imagine la mousson, des grosses pluies diluviennes un peu perpétuelles, du matin au soir. On s'imagine déjà dans de l'eau, tu sais, jusqu'au genou. Ben oui, mais c'est ça qu'on voit à la télévision.
C'est
pas ça du tout, quoi.
Non.
Pas tout le temps, non. Pas tout le temps.
Non. Ça dépend surtout des raisons. Oui.
C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Parce que chez vous, le pleut du matin jusqu'au soir ici, ça pleut juste un petit moment, mais quand ça pleut fort et après ça s'arrête.
Et après le soleil revient, il y a la bonne odeur de la terre.
Voilà, il y a du beau soleil. Et quand il fait chaud, on espère à la pluie.
Bon Bouba, il faudrait faire le plein quand même de l'auberge du Vieux Kansai, hein, si j'ai bien compris.
Oui, l'auberge du Vieux Kansai, parce qu'on était à mon père, c'est pour cela qu'on l'appelait l'auberge du Vieux Kansai. Pour le roi, c'est calme, parce qu'avec les médias, ils ont fait peur aux touristes, alors au Mali, il n'y a rien. C'est un peu de la paix. Et tout le monde est surpris d'entendre qu'au Mali, il y a Al-Qaïda, il y a la rébellion. Pourtant, c'est vraiment calme. On fait appel à tous les touristes. Même le président est allé intervenir pour dire qu'il puisse venir. Il y a la sécurité parce qu'il n'y a pas la guerre, il n'y a rien qui la paix.
Voilà, bon, on peut y aller, hein. Nous, on le dit, hein. Tu le dis souvent, Dominique, il faut y aller.
Oui, il faut y aller.
Voilà, si vous êtes de passage par là-bas, allez à l'auberge du Vieux Kansai et saluez Bouba de notre part. Merci, Bouba Kansai. Merci.
Au revoir, Bouba.
À la prochaine.
Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Ciao.
Ciao.
Faut qu'on fasse quelque chose avec ce téléphone, ça va pas du tout. Moi, je propose qu'on aille là-bas directement.
Eh ben, on va y aller, hein. On part et on fera des émissions en direct avec Aurélien.
Voilà.
Est-ce que j'ai le temps de, d'annoncer?
Non. Ah oui, si, annonce, mais rapidement.
Alors, voilà, il y a Via Sahel, qui est une ONG, voilà, qui existe depuis 30 ans, qui va faire une soirée à Caussade le samedi 1er octobre, espace Bonaïs, avec un dîner-spectacle, avec Bac Yaye, chant, percussion, exposition, vente, objets d'art d'Ogon et malien, diaporama, films et informations sur toutes les actions d'aide au développement durable en pays d'Ogon au Mali.
Ah ben ça marche.
Voilà.
Merci Paul Josilibé, merci Dominique Janin.
De rien, et pour les remèdes, on en parlera la prochaine fois.
Bah ouais, du coup.
Hein voilà, mais c'était très riche.
Bah oui, bah oui, puis c'est vrai que...
Je sais pas, elle a trop parlé.
Elle parle beaucoup.
Ouais, trop même.
Elle parle trop.
Oh, écoutez, on commençait pas à me
parler. Elle parle,
elle parle.
Alors, ils sont dans le cousinage.
Allez, à la semaine prochaine.
Merci, allez, là. Wa finisani ye, ne ka jonge ba finisani ye, sinisera.